Teg comprit brusquement que cet endroit était un leurre, une tromperie plaquée sur d'autres tromperies. Le tout formant un tel méli-mélo de mensonges qu'on aurait pu gratter plusieurs strates sans arriver jusqu'à un début de vérité utile. Tout gameux était fait ainsi. D'où provenait une telle folie? Remontait-elle au temps des Harkonnen? Nous y sommes, Bachar. Le chauffeur se rangea le long du trottoir devant la façade aveugle d'un immeuble en plastacier noir où se découpait l'ouverture unique d'une porte d'entrée sur la rue. Nul matériau de récupération ici. Teg reconnut parfaitement l'endroit. C'était bien l'une des planques qu'il avait sélectionnées lui-même. Des signaux incompréhensibles clignotaient dans sa nouvelle vision seconde, mais il ne pensait pas qu'il y eût du danger dans l'immédiat. Le chauffeur lui ouvrit la portière en s'effaçant pour le laisser passer. « Il n'y a pas grand monde à cette heure-ci, » dit-il. « Dépêchez-vous d'entrer. » Sans un regard en arrière, Teg descendit sur le trottoir étroit et s'engouffra dans l'immeuble. Un petit hall en plastacier d'un blanc poli l'accueillit, agrémenté seulement de quelques rangées d'œils comme. Il se glissa dans un tube de montée et composa les coordonnées qu'il avait en mémoire. Ce tube, si ses souvenirs étaient exacts, grimpait en diagonale jusqu'au 57e étage de l'immeuble sur l'autre façade, celle où il y avait des fenêtres. Il revoyait la salle à manger privée aux tentures pourpres et au mobilier brun foncé massif. La maîtresse des lieux, au regard sévère et à l'air de famille évident avec le Bene Gesserit, sans être elle-même une révérende mère. Le tube le conduisit directement dans cette salle de son souvenir, mais il n'y eut personne pour l'accueillir. Il posa son regard sur le mobilier massif et les tentures grenat qui, au fond de la salle, dissimulaient les quatre fenêtres en façade. Il savait que sa présence ne pouvait manquer d'être décelée. Il décida d'attendre patiemment, comptant sur sa vision spéciale pour anticiper tout danger. Il ne recevait pour le moment aucun signal d'agression. Il prit position sur le côté de la sortie du tube et examina de nouveau les lieux. Teg avait une théorie sur les relations entre une pièce d'habitation quelconque et ses fenêtres, leur nombre, leur disposition, leur hauteur à partir du sol, le rapport entre les dimensions de la salle et celles de ses fenêtres, l'étage où elle se trouvait, la manière dont les fenêtres étaient habillées et ainsi de suite. Toutes ces données, dans son raisonnement de Mentat, étaient comparées à l'usage auquel était destinée la chambre. Les pièces d'habitation pouvaient être classées selon une hiérarchie particulièrement précise. Il y avait bien sûr des cas d'espèce où ces considérations n'auraient pas pu fournir d'informations utiles, mais en général, on pouvait se fier à la théorie. L'absence de fenêtres dans une pièce située au-dessus du niveau du sol revêtait une signification particulière. Si des humains occupaient cette chambre, cela ne signifiait pas nécessairement que le secret était leur objectif principal. Il lui était arrivé d'établir sans équivoque que dans un contexte universitaire, l'absence de fenêtres dans une salle de cours était à la fois le symbole d'un isolement par rapport au monde extérieur et d'une nette aversion envers les jeunes. Cette pièce-ci, cependant, avait quelque chose de différent. Pas seulement le secret à volonté, mais aussi le besoin de maintenir une surveillance occasionnelle sur le monde extérieur. L'isolement protecteur sur commande. Son jugement se trouva renforcé lorsqu'il traversa la pièce pour écarter brusquement l'une des draperies. Les fenêtres étaient en triplace à haute résistance. C'était bien ça. Surveiller le monde extérieur, c'était aussi risqué de provoquer une attaque. Telle était du moins l'opinion de la personne qui avait donné l'ordre de protéger ainsi cette salle. Il alla tirer une autre draperie à l'extrémité du mur et examina de plus près la surface vitrée. Il y avait là des réflecteurs prismatiques dont la fonction était d'amplifier la vue le long du mur adjacent de chaque côté et de haut en bas. Ça alors. Sa précédente visite ne lui avait pas laissé le temps d'examiner les lieux avec autant de précision, mais il savait à présent parfaitement à quoi s'en tenir. Très intéressant. Il laissa retomber la tenture et se tourna juste à temps pour voir émerger du tube d'accès un homme de haute taille. La vision seconde de Teg lui fournit une prédiction catégorique sur le nouveau venu. Cet homme représentait une menace cachée. Son allure générale était sans aucun doute possible celle d'un militaire, surtout sa manière de se tenir et son œil vif à l'affût de détails que seul un officier ayant subi une formation spéciale était susceptible d'observer. Mais il y avait quelque chose d'autre dans son maintien qui alerta immédiatement Teg, Ce militaire était un traître professionnel, un mercenaire prêt à se vendre à celui qui offrait le plus.
« C'est écœurant, la manière dont ils vous ont traité, »
fit-il en s'avançant vers Teg. Sa voix de baryton portait en elle l'assurance inconsciente du pouvoir personnel. L'accent ne ressemblait à aucun autre dont Teg eut connaissance. Il venait de la dispersion. Au moins le grade de Bachar ou l'équivalent, estima-t-il. Il ne sentait toujours pas de danger immédiat. Voyant que Teg ne lui répondait pas, l'homme reprit.
« Oh, excusez-moi. Je me présente. Muzaffar. Jaffa Muzaffar. Commandant régional des forces de Dour. »
Teg n'avait jamais entendu parler des forces de Dour. Les questions se bousculaient dans sa tête, mais il gardait le silence. Tout ce qu'il pouvait dire à cet homme risquait de trahir une faiblesse. Où étaient les gens qu'il s'attendait à trouver ici? Qu'est-ce qui m'a fait choisir cet endroit? Sa décision lui avait été inspirée avec une telle assurance?
« Installez-vous confortablement, je vous prie, » lui dit Muzaffar,
en désignant des coussins derrière une table basse.
« Je vous assure que je ne suis pour rien dans ce qui vous est arrivé. J'ai essayé d'y mettre un terme dès que j'en ai eu connaissance, mais vous aviez déjà quitté les lieux. »
Teg percevait maintenant quelque chose d'autre dans la voix de ce Muzaffar, une sorte de prudence qui confinait à la peur. Il était donc au courant des événements de la cabane.
« Très habile de votre part, » continua Muzaffar. « Gardez vos forces d'attaque en réserve jusqu'à ce que vos ravisseurs soient occupés à essayer de vous extorquer des renseignements. Ont-ils appris quelque chose ?»
Teg secoua muettement la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Il sentait qu'il allait d'un instant à l'autre recevoir l'impulsion de passer à l'attaque en mode accéléré. Et pourtant, il ne percevait toujours aucune menace immédiate. À quel jeu jouaient donc ces égarés? Quoi qu'il en soit, il était parfaitement clair que Muzaffar et les siens n'avaient rien compris à ce qui s'était passé dans la cabane où on l'avait soumis à la sonde T.
« Asseyez-vous, » insista Muzaffar.
Teg se laissa tomber sur le coussin indiqué. Muzaffar prit un siège bas à un autre coin de la table. Tout indiquait qu'il était sur le qui-vive, prêt à faire face à une situation de violence. Teg prit le temps de l'étudier avec intérêt. Muzaffar n'avait pas révélé de véritable grade à part le titre vague de commandant. De haute taille, il avait le visage large et rubicon, le nez long, les yeux gris-vert, et la manie de fixer un point situé juste derrière l'épaule droite de Teg quand il s'adressait à lui. Teg avait autrefois connu un espion qui agissait ainsi.
« Eh bien, » fit Muzaffar. « Je n'ai pas cessé d'entendre parler de vous ou de lire des choses à votre sujet depuis mon arrivée ici. »
Teg continua de l'observer en silence.
Ses cheveux coupés courts laissaient visible une cicatrice violacée de quelques millimètres de long au-dessus de son sourcil gauche.
Il portait une vareuse ouverte de couleur vert clair avec un pantalon assorti. Pas tout à fait un uniforme, mais il y avait quelque chose dans sa tenue qui évoquait la stricte discipline des armées. Ses chaussures, par exemple, étaient cirées à la perfection. Teg était sûr qu'en se penchant, il pourrait y apercevoir son reflet comme dans un miroir.
« Je n'avais jamais pensé vous rencontrer un jour en chair et en os, naturellement, » reprit Muzaffar. « Considérez qu'il s'agit d'un très grand honneur pour moi. »«
Pour ma part, je ne sais pas grand-chose sur vous, excepté que vous commandez des forces de la dispersion, » lui répondit Teg.
Il n'y a rien de très particulier à savoir, je pense. »
Une fois de plus, Teg sentit la faim lui tenailler l'estomac. Son regard se porta sur le bouton près du tube d'accès, qui servait, il s'en souvenait, à faire venir un serveur. C'était le genre d'endroit où le service était fait par des humains de préférence aux automates habituels. Excellente excuse pour entretenir sur les lieux une petite troupe prête à agir en permanence. Se méprenant sur le regard de Teg, Muzaffar murmura
« Je vous en prie, ne songez pas à nous quitter déjà. J'ai demandé à mon médic personnel de venir ici vous examiner. Il ne devrait plus tarder. À votre place, j'attendrai tranquillement qu'il arrive. »«
J'avais seulement l'intention de commander quelque chose à manger, » dit Teg.
« Je vous conseillerais d'attendre le passage du docteur. Ces étourdisseurs provoquent parfois des effets secondaires indésirables. »
Vous êtes au courant ?
Au courant de ce lamentable fiasco, oui. Votre Burtzmali et vous représentez une force avec laquelle nous devons compter.
Avant que Teg ait pu lui répondre, le tube livra passage à un personnage de haute taille, vêtu d'une veste combinaison rouge. Il était maigre à un point tel qu'on avait l'impression de voir pointer ses os à travers l'étoffe ballante. Tatoué sur son front haut était la marque en forme de losange des docteurs Souk, mais sa couleur était orange au lieu du noir habituel. En outre, les iris du docteur étaient dissimulés par des taies oranges scintillantes qui ne laissaient pas voir la vraie couleur de ses yeux. « Un adepte d'une drogue quelconque ?» se demanda Teg. Il ne décelait pas l'odeur des stupéfiants habituels, ni même celle du mélange. Il flottait cependant autour de cet homme comme un parfum de fruits acidulés.
« Ah, vous voilà, Solitz !»
fit Mutsafar en désignant Teg d'un grand geste.
« Faites-lui un bon examen. Il a été touché par un étourdisseur hier soir. »
Solitz sortit un scanoscope, le modèle compact, tenant dans une main, habituellement utilisé par les docteurs Souk. Son champ analyseur émettait un léger bourdonnement.
« Ainsi, vous êtes un docteur Souk, »
lui dit Teg, en regardant ostensiblement le losange orangé tatoué sur son front. « Oui, Bachar. » Ma formation et mon conditionnement sont issus de nos meilleures et de nos plus anciennes traditions.
Je n'avais jamais vu de marque d'identification de cette couleur.
Le docteur passa son scanoscope autour de la tête de Teg.
La couleur du tatouage ne fait aucune différence, Bachar. C'est ce qu'il y a derrière qui importe.
Il abaissa son appareil jusqu'aux épaules de Teg, puis systématiquement le long de son corps. Teg attendit que le bourdonnement s'arrête. Le docteur recula d'un pas et s'adressa à Mutsafar.
« Il est en pleine forme, maréchal. C'est même remarquable compte tenu de son âge, mais il a particulièrement besoin de sustenter son organisme.
Je vois. Eh bien, c'est parfait, Solitz. Occupez-vous de cette question, le Bachar est notre hôte. »
« Je vais lui commander un repas adapté à ses besoins. Il faudra manger lentement, Bachar. »
Le docteur Souk effectua un demi-tour impeccable qui fit flotter un instant la veste et les jambes de sa combinaison. Puis le tube se referma sur lui.
« Maréchal ?»
répéta Teg.
« C'est un ancien titre de Dour. »«
De Dour ?»«
Excusez-moi, c'est vraiment stupide de ma part, »
fit Mutsafar. Il sortit de la poche de sa vareuse un petit étui d'où il fit glisser une carte. Teg reconnut un holosta du même genre que celui qu'il avait gardé sur lui pendant toute sa carrière militaire, et qui contenait des vues de chez lui et de sa famille. Mutsafar posa la carte à plat sur la table et enfonça le petit déclencheur. La représentation miniature en couleur d'une étendue verte et touffue de forêt vierge prit forme au-dessus de la table.
« C'est chez moi, »
dit Mutsafar, en désignant du doigt un endroit précis de la projection.
« Le buisson charpente, juste là au centre. Le premier qui m'ait jamais obéi. » Tout le monde se moquait de moi au début parce que j'avais pris celui qui se présentait comme ça, sans choisir.
Tout en s'intéressant à la projection, Teg perçut la profonde tristesse qui imprégnait la voix de Mutsafar. Le buisson en question était un assemblage étique de branches grêles à l'extrémité desquelles pendaient des boules d'un bleu très vif.
Buisson charpente ? Pas très costaud, je sais,
reprit Mutsafar en retirant son doigt de la projection.
Et pas très sûr non plus, évidemment. Surtout quand il a fallu que je me défende avec à plusieurs reprises pendant les tout premiers mois. Mais je me suis pris d'affection pour lui. Ils sont très sensibles à cela, voyez-vous. Et c'est à présent la meilleure place de toutes les vallées basses, par la roche éternelle de Dour.
Voyant l'air perplexe de Teg, Mutsafar s'écria
« Que je suis bête. Vous n'avez pas de buisson charpente, naturellement. » Il faut excuser mon ignorance crasse. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre.
Vous avez appelé ça chez vous ?
C'est vrai. Bien dirigés, une fois qu'ils ont appris à obéir naturellement, ils font de somptueuses résidences. Le tout ne demande pas plus de 4 ou 5 standards.
Standard, se dit Teg. Ainsi, les égarés comptaient toujours en année standard. Le tube d'accès fit entendre un sifflement. Et une jeune serveuse en tablier bleu entra à reculons dans la salle, entraînant une desserte chaude montée sur suspenseur qu'elle vint placer devant la table basse où était Teg.
Son costume était à peu près le même que celui dont il avait gardé le souvenir depuis sa dernière visite. Mais le visage rond et agréable qu'elle tourna vers lui était celui d'une inconnue. Le devant de son crâne avait été épilé, laissant voir un réseau de veines saillantes. Ses yeux étaient d'un bleu très pâle, et il y avait dans son attitude générale une sorte d'indifférence soumise. Elle souleva le couvercle de la desserte, et les odeurs épicées de la nourriture montèrent aussitôt aux narines de Teg. Celui-ci eut un soupçon, mais sa vision seconde ne percevait toujours pas de menace immédiate. Il se vit en train de manger sans que rien de fâcheux lui arrive ensuite. La serveuse disposa les plats devant lui, avec son couvert soigneusement rangé sur le côté.
« Je n'ai pas de détecteur, mais je peux goûter au plat si vous le désirez, »
lui dit Mustafar.
« Ce ne sera pas nécessaire, » fit Teg.
Il savait que cela les intriguerait, mais on le soupçonnerait simplement d'avoir des talents de diseur de vérité. Il examina la nourriture. Sans l'avoir décidé consciemment, il se pencha et commença à manger. Bien qu'il fût habitué à l'appétit particulier du Mentat, sa propre réaction le surprit. Quand il fonctionnait en mode Mentat, son cerveau consommait les calories à un rythme accéléré. Mais ce qui était en train de se produire ici dépassait tout ce qu'il avait connu. Son instinct de survie avait pris la relève. La faim qu'il ressentait était quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Quand il avait mangé prudemment sa soupe à l'étape précédente, il n'avait pas eu cette réaction. « Le docteur Souk a bien choisi », se dit-il. Le repas avait été composé en fonction des paramètres fournis par le scanoscope. La serveuse continuait d'apporter des plats qu'elle allait chercher dans des dessertes fumantes commandées par l'intermédiaire du tube. Teg dut se lever au milieu du repas pour aller aux toilettes. Même là, il avait conscience des œils comme qui l'épiaient en permanence. Il se rendait compte que les réactions de son organisme, en particulier ses processus digestifs, avait subi de profondes transformations qui les faisaient correspondre aux nouvelles nécessités de son métabolisme. Quand il retourna s'asseoir à la table, il avait aussi faim que s'il n'avait rien mangé du tout. La serveuse commença à manifester quelques signes d'étonnement, puis d'inquiétude. Mais elle continuait à apporter les plats sur sa demande. Mustafar le regardait faire avec une perplexité grandissante, sans dire un mot. Teg commençait à ressentir les effets réparateurs de l'apport énergétique prescrit par le docteur Souk. Mais les quantités visiblement n'avaient pas été prévues. La fille faisait le va-et-vient avec le tube d'accès dans une sorte d'état de choc. Mustafar finit par dire
« Je dois vous avouer que c'est la première fois que je vois quelqu'un manger de telles quantités d'affilée. Je ne comprends pas comment vous faites, ni pourquoi. »
Teg s'enfonça en arrière dans ses coussins, enfin rassasié. Il savait qu'il avait soulevé des questions auxquelles il était impossible de répondre franchement.
« C'est un truc de Mentat, » dit-il. « Mon organisme a été récemment soumis à de rudes épreuves. » « Tout à fait étonnant, »
dit Mustafar en se levant. Voyant que Teg voulait se lever à son tour, il lui fit signe de ne pas bouger.
« Inutile. Nous vous avons préparé une chambre à côté. » Il est préférable que vous ne quittiez pas cet immeuble pour le moment.
La serveuse sortit avec les dessertes vides. Teg observa Mustafar. Quelque chose avait changé en lui pendant son repas. Mustafar le regardait à présent d'un air froid et calculateur.
Vous avez un implant de communication, lui dit Teg. Vous venez de recevoir de nouveaux ordres. Il ne serait pas souhaitable pour vos amis d'essayer d'attaquer cet endroit. « Vous croyez que c'est là mon plan ?»« Quel est votre plan, Bachar ?»
Teg sourit.
« Très bien, » fit Mustafar.
Son regard se perdit dans le vague tandis qu'il écoutait son implant. Quand il reporta son attention sur Teg, il ressemblait à un prédateur. Teg sentit l'impact physique de son regard. Il comprit que quelqu'un allait arriver dans cette pièce et que le maréchal jugeait la présence de cette nouvelle personne très dangereuse pour son hôte. Mais Teg ne sentait rien qui pût menacer ses forces nouvellement reconstituées.
Vous pensez que je suis votre prisonnier, dit-il tout haut. Par la roche éternelle, Bachar, vous n'êtes vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et cet honoré matriarche qui va venir, à quoi s'attend-elle? Faites attention, Bachar. Ne prenez pas ce ton avec elle. Vous n'avez pas la plus petite idée de ce qui va vous arriver. il va m'arriver une honorée matriarche. Et grand bien vous fasse. »
Mustapha exécuta un demi-tour impeccable et sortit par le tube d'accès. Teg demeura les yeux fixés sur l'endroit qu'il venait de quitter. Dans sa vision seconde, un halo lumineux clignotait autour de l'entrée du tube. L'honoré matriarche était proche, mais pas encore prête à entrer dans cette salle. Avant, elle voulait s'entretenir avec Mustapha. Mais le maréchal n'aurait rien de très important à apprendre à cette dangereuse femelle.